Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine de l'environnement consacré aujourd'hui aux jardins partagés.
Et oui, de véritables oasis en pleine ville, les citadins se remettent au jardinage, même à Paris.
Mais vu qu'il y en avait plein le potager, je me disais chouette, on va avoir une super récolte. Bah d'ailleurs ici, il y a très peu de pros du jardinage. On apprend tous sur le tas en fait, quoi. Avec certains qui s'y connaissent plus et surtout avec l'expérience en fait. D'une année sur l'autre, on repère la forme des végétaux pour savoir ce que c'est et on sait si on peut les laisser ou pas. Non, au contraire, je dirais même, il faut pas être trop pro. Parce que les trop pros sont chiants un peu des fois. Il faut nous laisser faire de nouvelles expériences pour qu'on puisse apprendre et en faire profiter tout le monde.
Pour pouvoir en ville se reconnecter à la terre, des hommes ont décidé de recréer des jardins dans les espaces délaissés par l'urbanisation. Le phénomène est en plein développement et des villes comme New York posséderaient déjà plus de 650 jardins partagés. Les jardins partagés, c'est un reportage d'Alice Milo à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Les abeilles qui sont dans nos villes produisent plus de miel que dans nos campagnes et la mortalité de ces abeilles est deux fois plus faible que celle dans nos campagnes. Donc ça veut dire que paradoxalement, dans certains pays comme le nôtre, le travail le plus important à faire est de baisser la pollution de nos campagnes.
Et oui, c'est paradoxal, mais tout de suite, c'est le jeu de cette première partie. On décortique l'actualité environnementale avec vous, Ibrahim El Ali. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Nous sommes ravis de vous retrouver. Alors, vous êtes le directeur fondateur de Mawassem Care, la moisson de la bienfaisance. C'est une association de défense de l'environnement libanaise. Oui. C'est ça le principe. Sur place, vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, je travaille donc au Liban pour la protection de l'environnement. Et je rappelle à tous les auditeurs que le Liban est quand même le réservoir de la biodiversité dans le Moyen-Orient et qu'on a tous à gagner à faire un grand effort pour sauvegarder cette biodiversité qui est tout de même le début de l'humanité, de l'écriture, de l'agriculture également dans la plaine de la Beka. Donc on a beaucoup de choses à faire au Liban.
Alors pour commencer notre petit tour de l'actualité environnementale, Arnaud, il y a un peu partout autour de la Méditerranée en cette période d'été de nombreux incendies.
Oui, après la France, l'Italie et l'Espagne, l'Algérie, qui fait face à de nombreux incendies, a réussi à maîtriser des feux qui ont ravagé durant ces derniers jours plus de 4000 hectares de forêt de maquis en Kabylie, une région particulièrement touchée par une canicule exceptionnelle avec des températures entre 40 et 47 degrés.
Ça fait chaud là.
Ça fait très chaud. Alors, c'est plus de 10 000 hectares qui sont partis en fumée en Algérie depuis juin avec une moyenne de 21 incendies par jour. Ibrahim, on assiste un peu partout à une conjugaison de facteurs, urbanisation, dégradation des espaces ruraux, augmentation de la température, enfin tout un ensemble de facteurs qui entraînent une multiplication de ces incendies. C'est aussi le cas au Liban.
On a connu l'été dernier et l'été d'avant plus de 20% du paysage vert libanais qui a été brûlé suite à des incendies. C'était une véritable catastrophe au Liban. Mais on le rencontre aussi dans tout le pourtour de la Méditerranée et aujourd'hui en Algérie. Mais il faut savoir que 90%, sinon plus, des origines des incendies sont d'origine criminelle. Des promoteurs immobiliers. Vous-même, dans votre émission, vous avez invité, il y a très longtemps de ça, une association qui parlait de l'autoroute qu'ils allaient construire entre le Maroc et la Tunisie,
d'Alcala.
Oui. Et en tout cas, il y a toujours des origines criminelles. Et maintenant, il faut savoir que, par exemple, récemment, les deux incendiaires de la Corse ont été condamnés juste à 2 ans. Il faudrait que l'opinion mondiale se mobilise pour, un, condamner les incendiaires à des peines très très lourdes, 20 ans de prison, parce que incendier une réserve comme celle-là, c'est vraiment tuer toute la biodiversité et condamner les générations futures, premièrement. Et deuxièmement, il faut tenir d'un deuxième aspect qui est important. C'est que, par exemple, suite aux guerres au Liban, on a eu beaucoup d'incendies qui sont les conséquences de la guerre. Il faudrait se mobiliser. Maintenant qu'on a des frappes chirurgicales dans la guerre partout dans le monde, il faudrait se mobiliser pour qu'il y ait vraiment un tribunal qui soit fait pour les conséquences des dégâts liés à l'environnement suite aux guerres. Par exemple, les 15 000 tonnes de mazout qui ont été versées au Liban. Si c'était ici, dans la côte bretonne, on aurait eu 4 milliards de subventions. Au Liban, on n'en a même pas eu 5 millions. Donc, il faut vraiment se mobiliser pour qu'il y ait une conscience universelle pour punir les dégâts de guerre suite à les dégâts de l'environnement suite à des guerres.
Il y a actuellement une réflexion, d'ailleurs, au niveau international, pour mettre en place un droit de l'environnement, comme vous le disiez.
Alors, autre sujet en France, cette fois, c'est aujourd'hui que Michel Rocard présente son projet de taxe carbone au gouvernement. L'idée, c'est donc de taxer la consommation des énergies fossiles, fuel, essence et gaz, en augmentant leur prix. Par exemple, le litre d'essence sans plomb augmenterait de 7 centimes Et plus globalement, la moitié des ménages français devraient débourser plus de 300 euros par an. Ça devrait être mis en place courant 2010. Évidemment, c'est polémique. Michel Rocard s'expliquait ce matin chez nos collègues de France Info.
Nous sommes devant une situation assez étrange. Personne ne nie qu'il faut éviter de faire abrutir nos arrière-petits-enfants comme des merlans dans une poêle à frire, et qu'il faut mettre ça en place. Tout le monde est d'accord, à la condition que la dureté de cette taxe, parce que c'est méchant, ça va faire mal, soit partagée par tout le monde et qu'il n'y ait pas d'exception ni d'exemption. C'est la
alors vous voulez que ça soit reversé aux ménages les plus modestes, hein.
Enfin, les plus modestes, les ménages moyens, mais surtout ceux qui, parce qu'ils habitent loin, parce qu'ils sont en zone rurale, ils sont obligés de prendre leur voiture, y compris ceux qui travaillent la nuit à des horaires atypiques où il n'y a pas de métro ni de train pour y aller. Il faut trouver, c'est compliqué à faire, l'administration fiscale est en train d'y travailler, il faut trouver des moyens de les exempter. Il y a des métiers complets d'ailleurs, l'agriculture, la pêche, les chauffeurs de taxi, dans lesquels il faut trouver des moyens de rendre le métier économiquement possible malgré cette taxe. Donc il faut que la taxe joue pour changer les comportements, mais il ne faut pas qu'elle assassine les gens.
Ibrahim El Ali, comment est-ce que vous ressentez cette taxe ?
Toutes ces mesures qu'on prend, que ce soit au niveau des taxes pour l'environnement, toutes ces mesures sont des bonnes mesures. Mais en réalité, il faut bien comprendre une chose. Nous sommes tous dans la planète embarqués dans un bateau qui s'appelle le Titanic. Et on fonce tout droit devant un iceberg suite au réchauffement climatique. On y fonce tout droit. Il est là à ligne de mire. Les taxes, ce qu'on doit faire maintenant, ce sont des bonnes mesures, mais ce qu'on doit faire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Ce sont des mesures d'urgence qu'on doit faire. Vous rappelez à chaque fois, à chaque matin, à l'introduction de votre émission, qu'il y a une urgence pour la planète. Mais il y a une urgence, mais on n'en a pas vraiment conscience. Regardez, par exemple, à l'heure où je vous parle, la Terre, elle est en train de filer à 1666 km à chaque heure. Et autour du Soleil, à 30 km par seconde. On n'en a pas conscience. Mais la dégradation de l'environnement, c'est de la même chose. On y vit à cette époque comme l'époque de la disparition des dinosaures. C'est ce qui nous attend. Mais on ne fait rien de mesure d'urgence. On devrait mobiliser, par exemple, au niveau européen, par exemple, faire le service militaire obligatoire pour que tous les jeunes soient mobilisés pour faire des actions de reboisement massif, de nettoyage de la mer en Méditerranée. Voilà des mesures qu'on devrait faire. Et
vous trouvez que ça manque d'ampleur, quoi ?
Ça manque totalement d'ampleur parce qu'on est en face d'une urgence vitale et on est en train de prendre des petites mesures. La taxe de 300 euros, ça va dans le bon sens. Mais ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mobilisation des masses pour sauver cette planète.
Oui, mais en même temps, on sait bien que si on touche au portefeuille des gens, ça mobilise.
Il faut toucher au portefeuille des gens, mais ce n'est pas un problème. Ajouter 1 milliard de dollars, par exemple, en Algérie pour l'environnement, ça ne va rien changer. Parce qu'ils ont déjà 200 milliards de dollars qui sont dans les fonds pensions américains. Tout le monde sait peut-être qu'on ne les reverra jamais. Il ferait mieux de les mobiliser pour le projet Desert Tech, mobiliser ça pour l'énergie. Un ingénieur de Siemens disait récemment, il y a 2 jours, que 300 km² de miroirs paraboliques suffiraient à
fournir de l'énergie.
À fournir l'énergie pour la planète entière. Donnons-leur 3000 km², 30 000 km² qu'on règle une fois pour toutes le problème de l'énergie et qu'on sorte du nucléaire.
c'est pas du vent sur RFI. Et maintenant, on s'intéresse à l'actualité environnementale d'une région du monde. Et aujourd'hui, direction les Amériques.
Et les Amériques, c'est avec Orlando Torricelli, bonjour.
Oui, bonjour à tous, bonjour Arnaud.
Alors, on commence avec les petits Nord-Américains.
Oui, par les QI des petits Nord-Américains.
Le quotient intellectuel.
Une étude à paraître le mois prochain montre que l'exposition à la pollution affecte le quotient intellectuel des enfants pendant la grossesse de leur mère. Une exposition à des hauts niveaux des HP, des polluants toxiques issus de la combustion du charbon, du diesel ou de l'essence, s'est traduit, selon le spécialiste, par un quotient intellectuel inférieur des 4,31 à 4,67 points à celui des enfants non exposés. Cette étude a été financée par les instituts nationaux pour la santé.
Alors on franchit maintenant la frontière pour aller au Canada.
Oui, le Canada a appelé l'Union européenne à reconsidérer l'adoption d'un règlement entérinant l'interdiction des produits dérivés du phoque, avertissant qu'il pourrait saisir l'Organisation mondiale du commerce. Une attitude assez rigide en matière de protection de l'environnement qui, pour certains, reflète assez bien une position qui ne place pas le Canada parmi les meilleurs élèves qui assisteront à Copenhague. À ces propos, écoutons Sylvain Trottier des Greenpeace France.
Le Canada fait partie, en effet, des éventuels mauvais élèves à Copenhague, dans la mesure où déjà depuis des années, le Canada bloque régulièrement les négociations, l'avancée des négociations, que ce soit lors des G8, lors de sommets du Commonwealth, lors de la réunion, le sommet de Bali en 2007. À chaque fois, le Canada, depuis les années récentes, emboîtait le pas de l'administration Bush pour freiner toute négociation, toute avancée sur des accords multilatéraux sur le climat. Il faut rappeler aussi que le Canada donc a ratifié le protocole de Kyoto en 2002, mais que le Canada n'a toujours pas respecté son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 6%. Et à savoir même que le Canada a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 30% ces dernières années.
Les Canada, pour l'instant, semblent déterminés à défendre ses droits et surtout ses intérêts.
Jusqu'en décembre dernier, de toute façon, c'était totalement en cohérence avec la position des États-Unis. Justement, là, le gouvernement américain, l'administration américaine a changé et le gouvernement canadien, lui, n'a pas changé pour l'instant. Ensuite, il y a sans doute des intérêts internes. Il y a aussi des grands projets au Canada, par exemple, un projet qui s'appelle le projet de sable bitumineux dans le nord du Canada, dans l'Alberta, qui est un projet qui va consister en l'exploitation de sable bitumineux pour produire du pétrole. Un projet qui concerne 138 000 km² de territoire forestier qui sera exploité. On exploiterait le sous-sol pour produire du pétrole. Donc il y a aussi sans doute des intérêts économiques, des intérêts stratégiques du pays qui n'a pas envie de quitter les énergies fossiles immédiatement ou en tout cas de se fixer des objectifs pour cela.
Orlando, beaucoup plus au sud, les Chiliens retournent au charbon.
Oui, Arnaud, mais cela mérite une explication. Les difficultés qui rencontrent ces pays sud-américains pour s'approvisionner en gaz, rappelons que son voisin argentin n'a pas toujours fourni les quantités promises, poussent les Chiliens à chercher à diversifier leurs sources d'énergie. D'après une récente étude diffusée par la presse locale, les charbons pourraient représenter 52% de leur matrice énergétique à l'horizon 2030.
Merci Orlando Torricelli.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Ibrahim Alali, une petite réaction à cette sélection d'informations américaines.
Moi, je voudrais m'adresser à vos auditeurs pour recadrer un peu toute cette problématique de l'environnement. Voici, l'Homo sapiens, il a apparu sur Terre en Afrique déjà, il y a 200 000 ans. Et puis depuis 200 000 ans, l'homme vit avec les plantes sauvages, se nourrit, la pêche, l'élevage. Et puis voilà qu'après la Première Guerre mondiale, l'effet des gaz moutardes a fait que l'homme a inventé des pesticides. Et voilà, c'est seulement 3 000 ans qu'on a l'agriculture. Mais ce qu'on a fait, depuis qu'on a l'agriculture et ses pesticides, ce qu'on a, c'est qu'on a oublié tout ce que l'homme a vécu pendant 200 000 ans avec. Et on se positionne juste sur ce qui a une rentabilité financière. Il faudrait que ce capitalisme moderne ait deux axes. Un axe qui soit financier, de développement de la science, mais un axe aussi où l'eau, l'électricité, la nourriture soient accessibles à tous. Et refaire développer les plantes sauvages. Le Sénégalais, il a plus intérêt à développer son coni, ça veut dire les rogniers, son solom, ses fruits naturels, son bissap, son quinquilibat, que faire rentrer dans son pays un OGM qui sera en réalité la mainmise sur le ventre de ses petits-enfants. Rien d'autre.
Alors, on est tous d'accord, évidemment, sur vos propos. Maintenant, c'est concrètement, c'est difficile à faire passer. Alors, par exemple, au Liban, comment est-ce que vous faites pour faire changer les mentalités, les pratiques ?
Moi, j'ai un travail qui est basé sur deux axes. Sur le Liban, mais je me rends compte de plus en plus que c'est avec les municipalités, parce que les problèmes d'environnement sont plus les municipalités, les collectivités qui sont sensibilisées. Et c'est comme en psychologie, on a les thérapies longues, la psychanalyse, on a les thérapies brèves qui ont un résultat concret. Je vous cite en ce moment le cyanure au Sénégal, en Casamance, en train de reboiser 30 millions d'arbres avec la population locale. Voici des initiatives qu'il faut encourager. Et mon projet actuellement, c'est de créer une fondation. J'ai beaucoup d'experts qui sont prêts à venir avec moi pour voir dans les différentes collectivités, les villages en Afrique, ce que je veux faire, un appel aux Africains en général, tous ceux qui ont une petite licence, un baccalauréat, retournez à vos villages et faites le cadastre de vos villages. Sinon, vos terres vous seront prises par les États pour être vendues demain. Faites le cadastre. Regardez le baobab, regardez une pierre qui va délimiter les zones. Faites signer les voisins. Donnez ça au registre, au chef du maire qui va signer, qui va le déposer au gouverneur. Et vous êtes tranquille qu'on ne va pas vous voler vos terrains demain. Sinon, on va vous inventer un projet agricole fantôme. On va vendre les terrains, c'est ce qu'on va amener. Alors, vous devez tous vous mobiliser sur cet effort. Parce que ce n'est pas les États ni les gouvernements qui vont changer la donne dans l'environnement. C'est la population même et la société civile, les gens de base.
Alors, où est-ce qu'on en est justement avec cette prise de conscience des gens dans un pays comme le Liban aujourd'hui ? Comment on comprend ces idées, cette question, tous ces enjeux ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans la préoccupation populaire ?
C'est pas lancé dans la préoccupation populaire, mais par contre, au Liban, ce qu'on a, on a une spécificité. Comme l'État était très peu présent avec la guerre, toutes nos maisons dans les toits, on a des chauffe-eau solaires. On a, par exemple, la récupération de l'eau de pluie. Le Libanais a un comportement écologique sans le savoir. Et nous, à travers les municipalités, les traitements des eaux usées, en profitant de la présence de la FUNUL pour faire des projets sur l'environnement également, on fait avancer petit à petit les choses. Mais surtout aussi, nos mères libanaises se nourrissent pratiquement de plus de 200 plantes sauvages qu'elles cultivent naturellement. Elles ne sont pas cultivées. On mange ça tout le temps. Et il faudrait développer ça en Afrique. En Europe, c'est difficile. Mais sortez dans le jardin ici, à RFI, sortez. Vous avez des plantes qu'on peut manger. Ça a disparu en Europe, mais on connaît bien la soupe des orties.
Oui, oui, ça se mange toujours. Et puis vous êtes venu gentiment avec des tisanes qu'on va pouvoir déguster pour justement avoir un petit peu de Liban chez nous. Merci Ibrahim El Ali d'être passé dans C'est pas du vent. Vous reviendrez parce qu'on connaît votre passion pour ces thématiques. C'est la fin de cette première partie. C'est pas du vent. On revient juste après un bref rappel de l'actualité. Oui, vous vouliez dire un petit mot. Vous avez deux secondes.
J'ai deux secondes pour vous dire que le Liban est le début de l'humanité et qu'il faut tout faire pour protéger l'environnement au Liban.
Parce on a deux secondes, c'est fini. À bientôt.
Merci.
C'est pas du vent, on vient juste après un bref rappel de l'actualité.